Poilu Sécure, épisode spécial, nous accompagnons de Charlotte. Est-ce que tu peux te présenter?
Bonjour Nicolas Loïc. Alors, moi je suis Charlotte Trudel, je suis consultante en gouvernance risque et conformité au sein d'un cabinet spécialiste en cybersécurité qui s'appelle Ciblex Consulting.
Oui, et justement, c'est aussi cet aspect de gouvernance-là qu'on va aborder aujourd'hui, plus au niveau légal. On va parler de NIS 2, qui fait beaucoup parler en Europe, peu en Amérique, parce qu'on est peu ou pas touché par ces éléments-là, mais il y a beaucoup d'éléments très importants à l'intérieur de cette loi ou de cette transposition-là qui va arriver dans les différents pays européens pour justement forcer une maturité dans nos systèmes TI qui, à certains égards, manquent beaucoup de maturité à l'heure actuelle. Fait que tu peux justement expliquer c'est quoi pour quelqu'un qui ne connaît absolument pas c'est quoi le NIS 2, d'où ça arrive et de qu'est-ce qu'on fait avec ça?
OK. Alors, NIS 2, donc pour faire simple, c'est la suite ou au moins la continuité de la NIS 1, donc jusque-là, voilà. C'est une directive européenne qui permet de protéger les entités critiques ou importantes de l'ensemble de nos services. On a un contexte global, hein, ça c'est pas qu'en Europe, c'est international, de plus en plus de cyberattaques, un système d'information toujours plus présent. L'Europe a décidé de mettre une loi en place, donc une directive européenne, que chaque pays européen doit transposer dans son droit.
Ouais, ben c'est un peu la façon que les lois européennes fonctionnent. Pour nous ici, c'est un peu plus passif. On n'a pas cette transposition-là, cette façon à deux paliers d'une adoption générale avec une adoption spécifique qui change dans chacun des pays, dans les éléments. À la limite, c'est comme un traité, si on peut le voir, là, de façon à ce qu'on est plus habitué ici de voir où il y a un accord qui doit ensuite voter au Parlement ou à l'Assemblée, tout dépendant comment la structure législative fonctionne.
C'est ça. Oui, en effet, on est un petit peu sur les mêmes schémas hein, que ce qui a été fait en 2018 côté RGPD, Réglementation Générale à la Protection des Données, qui a beaucoup fait parler de lui aussi, je pense, à l'international. Voilà, mais on est sur les mêmes schémas d'application, en effet, sur la NIS 2.
Ouais, ben le RGPD a fait parler parce qu'il y a des applications extraterritoriales. Ce gars de NIS 2, on ne retrouve pas nécessairement cette application extraterritoriale ou en tout cas au même sens qu'on peut l'avoir dans le RGPD qui a dérangé beaucoup de compagnies américaines notamment.
Tout à fait. Oui, donc ça va concerner, NIS 2 va quand même concerner 18 secteurs d'activité, donc découpés en entités essentielles et entités importantes. Mais ça ne va pas concerner qu'eux. Donc, quand on parle de. On va parler de cascading. C'est peut-être là que le reflet va se faire un petit peu sur le même principe que le RGPD. C'est-à-dire que tous ceux qui travaillent avec ces entités concernées devront être conformes à NIS 2. L'objectif, hein, c'est vraiment d'améliorer la résilience, la capacité de réaction aux incidents de l'ensemble de nos secteurs d'activité dits critiques qui permettent de faire fonctionner le pays.
Oui, selon NIS 2, quelles sont justement les infrastructures critiques qui sont visées par la réglementation? Et incidemment, tous les fournisseurs associés vont être touchés, mais qui sont la cible première de cette législation-là?
Alors, en entité essentielle, on va retrouver des secteurs tels que l'énergie, le transport. On a les eaux potables qui étaient déjà concernés. Ces secteurs-là étaient déjà concernés par la NIS version 1. Mais il a été ajouté, par exemple, les eaux usées. On a pu avoir des retours, hein, notamment sur la dernière organisation des Jeux Olympiques, où on essayait justement d'impacter les réseaux d'eau usée de la région parisienne, par exemple en France, pour justement porter préjudice à des fonctionnements. Donc on a la santé, on a tout ce qui est justement servistique qui vont être concernés. L'espace a été ajouté parce que ça reste quand même quelque chose d'assez important pour les gouvernements. On a les administrations publiques, donc ça fait beaucoup de bruit en France sur les parties collectivités, etc. Enfin, c'est un certain budget coût à mettre en œuvre sur les mesures. Et il a été fait pour le secteur bancaire, parce que le secteur bancaire est concerné par la NIS 2. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais il a été fait un leg spécialiste pour le secteur bancaire. Donc le référentiel DORA, pour le coup, qui est juste un dérivé de NIS 2 pour le secteur bancaire. Voilà ce qui a été fait. Donc ça, c'est les entités essentielles. On a un seuil après de nombre d'employés et de chiffre d'affaires qui est appliqué à ces structures. Seuil quand même qui augmente drastiquement les entreprises et les organismes concernés. En entité importante, on va retrouver les services postaux, la gestion des déchets, la fabrication, la recherche ou la transformation et distribution de denrées alimentaires. Voilà, on tourne à 18 secteurs. Si on prend le parallèle en France, la Nice 1 concernait à peu près tout secteur sur les différents référentiels concernait à peu près 300 entreprises, 300 entités. La Nice 2 va en concerner jusqu'à 15 000.
C'est beaucoup plus important. Voilà. Puis comme tu mentionnes, ça crée beaucoup de bruit, surtout pour les administrations publiques. Surtout la façon que ça fonctionne en France, c'est sûr que ça va créer un électrochoc chez plusieurs de ceux aussi, parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui étaient non prêts. D'ailleurs, on a vu dans les médias à plusieurs reprises des administrations qui ont été complètement arrêtées parce que les systèmes informatiques étaient non fonctionnels suite à des attaques ou des éléments comme ça. Donc, c'est une nécessité, mais en même temps, je pense qu'il va exiger des réflexions, des nouvelles approches qui, je pense que jusqu'à présent, n'ont jamais été même considérées, ce qui est malheureux en soi, mais qui n'étaient pas considérées par personne.
Outre l'amélioration de chaque entité, il y a aussi une volonté européenne de créer un écosystème. C'est pas juste imposer des mesures à des entreprises, mais c'est vraiment se créer un écosystème résilient. Donc ça passe par toutes les tranches de l'Europe. C'est assez large comme application. Donc on parle beaucoup des mesures qui vont être mises en œuvre, mais c'est pas que ça. On a notamment des articulations de comment vont s'organiser des CSIRT ou des réponses à incidents, comment vont se partager les menaces, les failles, vulnérabilités. NIS 2, c'est aussi grâce à ce nouveau référentiel que l'Agence européenne de la sécurité des systèmes d'information, donc l'ENISA, a mis en place le UVD, qui est le pendant du coup européen des bases de vulnérabilité CVE. Donc, c'est pas juste des réglementations appliquées et des punitions pour les entreprises. C'est aussi la volonté de créer un écosystème résilient, puisqu'on fonctionne vraiment beaucoup sur les technologies aujourd'hui, quoi.
Oui, puis c'est aussi ce qui est remarquable de beaucoup de législation européenne, c'est cette volonté-là d'uniformiser le marché européen, ce qui est souhaitable aussi, puisque à l'heure actuelle, c'est un amalgame de plusieurs pays avec beaucoup trop d'autonomie, si on veut, sur des choix ou des standards qui nous amènent à des complexités de marché. Ce que les Américains n'ont pas par ailleurs, c'est justement une des forces du marché américain, sa relative uniformité. Au niveau surtout des TI et SI qui sont faciles, prévisibles, donc de créer cette prévisibilité-là en Europe est souhaitable. Puis le gain va être énorme en termes de capacité réelle de résilience de l'ensemble du marché. Après ça, ben là, ça va être une période comme l'adolescence, ça va faire mal, ça va être inconfortable, les gens ne trouveront pas ça le fun. Mais de voir cette façon-là de s'organiser, je trouve ça d'un très bon œil. NIS 2, au-delà du fait que ça va arriver à mutualiser puis à uniformiser les choses, quelles sont les attentes, les règles qui sont là, qui justement dérangent énormément, puis qui pourtant, en tout cas, a priori, sont comme standard pour quelqu'un qui opère dans le domaine, il n'y a rien de surprenant, mais pourquoi tout le monde est surpris?
Alors, c'est pas tant surpris que l'aspect, mine de rien, sanction, là où aujourd'hui, on était plus sur une base volontariste, on va dire, des entreprises de mettre en place un socle de cybersécurité. Demain, ça rentrera dans les textes et il y aura des sanctions applicables, des sanctions non négligeables. Donc, il y a cette problématique-là. Il y a aussi, mine de rien, même si c'est impulsé par une directive européenne, la problématique des transpositions dans les droits nationaux. Parce que du coup, d'un pays à l'autre, comme tu le disais tout à l'heure, on n'est pas forcément au même stade de maturité, donc pas forcément aux mêmes attentes, même si la directive européenne donne déjà des éléments de réponse sur ce qu'il faut vraiment mettre dans le texte. Potentiellement, d'un pays à l'autre, les moyens de conformité vont diverger. Et du coup, pour des entreprises européennes qui opèrent dans plusieurs pays, ça nous fait encore un millefeuille réglementaire à prendre en compte sur les aspects cyber, ce qui est déjà le cas. On a beaucoup de référentiels dans les et beaucoup de pays qui peuvent se se confronter sur des référentiels cyber déjà aujourd'hui. Donc, nous en rajouter un, c'est vrai que ça fait peur à des entreprises. Et c'est surtout le fait de faire des choses peut-être juste pour la conformité, parce que on parle du C de la GRC, hein, gouvernance, risque et conformité, de faire un petit peu du papier pour du papier. On a quand même une crainte de lourdeur dans ce qui va être mis en place. Aujourd'hui, certains pays ont déjà transposé, pas tous. Mais voilà, la crainte est plus sur la lourdeur administrative, le papier, le millefeuille réglementaire à ajouter et la prise en compte, encore une fois, d'éléments qui apportent une sanction et une punition non négligeable.
Comme le RGPD avait son énorme bâton qui est sur lequel il frappe justement pour amener les gens à se conformer à ce genre de choses-là. Peux-tu donner des exemples de mesures ou d'exigences qui sont décrites dans cette loi? Parce que je pense qu'elle est quand même assez précise dans les attentes qui sont mentionnées. Fait que c'est un peu aussi étonnant dans une loi d'être aussi précis.
Donc, en effet, pour on a une directive qui est quand même très précise dans ce qui est demandé. Après, on est toujours sur des aspects de gouvernance, donc à la fois très précise et très floue, donc qui laisse quand même un champ de liberté pour l'application assez conséquent. Par contre, au fil de l'eau, donc l'ENISA nous donne aussi beaucoup d'éléments plus quantitatifs et qualitatifs, comme ce qui est un incident. C'est vraiment l'avoir décrit pour chaque entreprise définie avec des seuils de l'incident, c'est tel prix et c'est tel impact, vous devez déclarer. Ça reste important pour les entreprises parce que ça évite l'interprétation de chacun sur ce qu'est un incident ou pas, c'est ce que je le considère ou pas, est-ce que je le déclare ou pas. Et encore une fois, ça permet de créer justement l'écosystème qui permet d'alerter aussi les autres entreprises. Donc, on a des choses très précises qui sont clairement pas nouvelles en cybersécurité. Hein, on est basé sur que ce soit sur la directive ou que ce soit sur ce qui se dessine au niveau des transpositions nationales. On est beaucoup basé sur une ISO 27001, donc sur un standard international, ce qui est plutôt chouette. Ils nous ont pas réinventé la roue et rajouté plein d'éléments assez aberrants. Donc on va avoir on a gros axe aussi sur la gestion des tiers, prestataires, fournisseurs, qui n'est encore une fois pas nouveau dans le panorama et qui reste important parce qu'il y a un risque de plus en plus conséquent. Nous, on le voit sur toutes les attaques qui peuvent se passer par la supply chain. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile que passer par ces grosses entités déjà régulées, déjà contrôlées par les services ou quoi que ce soit. Donc on a à la fois des choses qui vont être très précises et qui restent quand même, hein, de ce qui se dessine dans les interprétations, assez interprétables tout de même et transposables un peu comme on le souhaite.
Oui, ben c'est inévitable aussi, surtout le considérant que l'univers des SI fondamentalement est laissé beaucoup à l'interprétation. Donc c'est plus difficile d'être trop normatif sur ce genre de choses-là, puis pour l'avoir vu dans certains autres cas, peut-être pas dans un contexte législatif, mais dans un contexte privé, où il y a des ententes de services qui se font, vivent mal le vieillissement dans le temps parce que c'est trop précis. Donc, au bout de 3-4 ans, des fois, il y a des clauses qui deviennent désuètes de leur trop grande précision et puisque les technologies ont avancé, change un peu l'élément. La gestion des tiers, contrairement au RGPD, on a quand même un petit lien avec les tiers. Dans le contexte-là, le lien avec les tiers est énorme et c'est ça probablement qui fait le plus mal, en quelque sorte, ou qui est la plus grande douleur de cette application-là, puisque si je veux servir une compagnie ou une entité publique qui est couverte par le NIS 2, je dois moi-même, même si j'ai pas la taille, même si je n'ai pas, m'y conformer aussi, et donc prouver ma conformité à ce genre de choses-là. Donc, ça va changer un peu la constellation d'applications qui était de façon, dans ce cas-ci, indirecte, qui est énorme là, par rapport à ce qui devait avoir lieu précédemment.
C'est tout à fait la volonté de cette directive, hein. C'est hormis du coup sécuriser ou faire monter en maturité l'écosystème des entités critiques. L'objectif de cette directive, c'est pas d'avoir un ceinture bretelle et d'être complètement sécurisé. Par contre, c'est vraiment d'effacer le bruit ambiant et d'empêcher ce que j'appelle la technique du filet de pêche, c'est-à-dire le premier opportun venu d'obtenir accès à ces différentes entités. C'est vraiment tout le bruit ambiant qui déconcentre l'opportunisme, le ransomware, qui est déployable plus ou moins facilement dans toutes nos entités critiques. C'est pas ciblé des attaques, par exemple, étatiques ou quoi que ce soit. On est vraiment sur la diminution avec une hygiène de base. En fait, c'est ce que nous demande la directive. C'est une hygiène de base. Elle est pas tout à fait précise parce qu'elle prône aussi une approche par les risques. Et en couvrant 18 secteurs d'activité avec des tailles totalement variables, on peut en effet pas du tout se dire que de l'un à l'autre, on va avoir les mêmes risques. Donc, c'est pour ça qu'elle ne peut pas être, elle peut pas être non plus totalement précise. Et c'est ça aussi le jonglage des transpositions où faut pouvoir répondre à la fois à une pluralité de risques sans non plus avoir trop d'impact sur des plus petites structures. Parce qu'on commence quand même à 50 employés, donc bon, ça va vite.
C'est surtout des PME ou TPE qui n'ont généralement pas de personnes spécialisées ou dédiées pour la gestion des TI, donc on leur met une complexité dans laquelle ils ne vivaient pas précédemment. L'aspect de conformité par rapport à ça, parce que la loi s'applique, il y a des pénalités, des choses comme ça. Est-ce qu'on est dans un contexte de RGPD ou de pénalité sur défaillance et avec aucune vérification, ou on va aller sur un modèle plus technique cloud, c'est-à-dire qu'on doit faire valider notre conformité ou un peu des deux, je sais pas. C'est quoi la façon que ça va redescendre?
Alors, sur la directive européenne, on n'a pas forcément de mot d'ordre, entre guillemets, sur la directive européenne. Sur la transposition française, on ne l'a pas encore effectivement dans les textes. Donc, bon, ce qui se dessine aujourd'hui, c'est on ne va pas avoir de certification conformité NIS 2. Aujourd'hui, c'est pas d'actualité, même si c'est aussi une demande, parce que ne serait-ce que pour vérifier que le prestataire est bien conforme à NIS 2, avoir le petit tampon, ça facilite un petit peu les choses pour les acheteurs. Faut se le dire, hein, y a aussi ces enjeux-là. Mais ce qui se dessine, non, c'est vraiment contrôle, un peu comme le RGPD, avec une autorité qui a la possibilité de vérifier la conformité, qui a la possibilité d'auditer la conformité, et des punitions, encore une fois, comme le RGPD, où a pris la main dans le sac, bon bah tant pis, mais voilà. Et sur les sanctions, on est vraiment sur les mêmes montants hein, que le RGPD. Pour des entités essentielles, on est quand même à 10 millions d'euros, ou 2% du chiffre d'affaires annuel mondial total. Et pour des entités importantes, on est à 7 millions ou 1,4 du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment le modèle RGPD-like des sanctions. Voilà. Mais ce qui se dessine, c'est vraiment un contrôle. Donc nous, en France, ce qui est à peu près sûr, c'est que ce sera l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui aura la tutelle de ce référentiel, hormis, comme je disais tout à l'heure, la partie DORA et secteur bancaire, où là, ce sera les autorités bancaires, pour le coup, ce sera plus l'ANSSI. Donc voilà, c'est pareil. En France, le projet de loi, le projet s'appelle Résilience. C'est le projet Résilience. Donc avec la transposition de la NIS 2, la transposition de DORA et la transposition d'une autre directive qui le sert, donc la Critical Entities Resilience, sur les mêmes sujets. Mais voilà, comment va se dessiner l'interaction, puisque DORA, on parle à des financiers, donc on parle un langage bancaire. NIS 2, on parle à tout le monde. Donc voilà, c'est encore une fois ajouter une complexité de lecture dans le texte, ce qui est pas le souhait aujourd'hui de l'ANSSI. Hein. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment faciliter les choses, accompagner. L'objectif n'est pas de sanctionner dès la transposition, mais bien d'accompagner dans la transition toutes les sociétés qui seront régulées. Parce que même si certaines sociétés ont totalement l'habitude, hein, quand on prend des très grosses sociétés, elles sont déjà régulées par d'autres textes, en France notamment, mais d'autres n'ont jamais connu ça sur les enjeux de cyber. Donc pour le coup, ça va changer un petit peu la façon de voir les choses. Et ne pas penser que la cyber est juste informatique, est réservée au DSI, mais bien de l'information.
Ouais, mais comme la RGPD a transformé cette façon-là, même si en France, il y avait déjà des lois qui ont précédé la RGPD, l'arrivée du RGPD a amené une globalisation, si on veut, de la protection des données personnelles, mais là, on compte dans les données tout court, les informations, faut qu'on élargit la portée de la protection que RGPD avait amenée. Puis ce que j'admire beaucoup en France, je connais peu les autres pays européens, c'est l'accompagnement que soit la CNIL ou soit l'ANSSI offre pour le temps d'adaptation. Ce qu'on voit moins en Amérique où on fait la loi puis arrangez-vous. Puis on va voir l'autre côté qu'est-ce qui va se passer avec tout ça puis comment tu vois ça va se matérialiser. Fait que j'aime beaucoup l'aspect d'accompagnement parce que ça demande un changement de culture nationale. Donc c'est quand même un effort qui est non négligeable et on peut pas espérer que les gens vont s'y adhérer spontanément, surtout s'il y a pas de labellisation qui est mise. La labellisation elle a ce bienfait là, même si c'est à certains égards une usine à gaz pour dans certaines perspectives, mais quand même de standardiser, d'amener les gens à s'y conformer plus spontanément, disons que contexte dans le comme NIS 2 ou RGPD amène un changement réglementaire fondamental et sur les pratiques qui devront changer énormément là.
On espère aussi en effet l'ANSSI a toutes les cartes en main entre guillemets pour accompagner, c'est sa volonté hein, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est vraiment pas taper sur les organismes le plus tôt possible. Et c'est aussi parce que dans ce panorama-là, on a quand même beaucoup d'organismes publics. On parlait des collectivités tout à l'heure, mais il y a aussi tout ce qui va être milieu hospitalier. Comment accompagner ces sujets-là où la DSI, même si elle supporte beaucoup d'activités, dans des contextes IT ou OT, c'est pas le cœur de métier. C'est pas le cœur de service. Donc, c'est vrai, comment accompagner tous ces organismes qui sont beaucoup plus publics et concentrés sur d'autres vocations avec des budgets qui sont ce qu'ils sont aussi. L'ANSSI, en effet, apporte beaucoup d'éléments. Aujourd'hui, met en place des outils en France, même si tout n'est pas transposé. Ils ont déjà mis en place des outils pour assurer sa conformité, pour faire le suivi, pour savoir si on est concerné ou non. Voilà, il y a une vraie volonté de tout prendre en compte sur les éléments. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est leur document de travail, hein, parce que tout n'est pas passé dans le texte. Mais ce qu'ils ont décliné, c'est vraiment une hygiène de base que malheureusement chaque entreprise devrait avoir pour éviter. Enfin, le DG de l'ANSSI, sa façon de voir les choses, c'est pas si vous allez vous faire attaquer, mais bien quand est-ce que vous allez vous faire attaquer. L'ANSSI 2 dit tout dans ses titres. L'objectif, c'est vraiment la résilience. C'est comment est-ce qu'on se relève de l'attaque. C'est pas de l'éviter parce que ça n'existe plus. Voilà. C'est par contre comment est-ce qu'on continue malgré tout avec une cyberattaque, avec inclure vraiment la cyberattaque dans la gestion de crise, que ce soit vraiment ancré dans la culture. Ouais,
absolument, mais c'est ça la beauté de la résilience, c'est de comment un incident se gère par lui-même et non de préparer. En tout cas, bref, c'est une approche dans laquelle je suis très favorable, qui est plus porteuse donc, pour les entreprises, pour les administrations publiques. Est-ce qu'il y a une volonté, là on parle plus des administrations publiques probablement, de mutualiser ces efforts-là, parce qu'on parlait de petites communautés, beaucoup de choses, puis il y en a énormément en France, des petites communautés qui existent. Donc, ces groupes-là qui sont généralement manque d'argent, manque de personnel, manque de compétences aussi, parce que c'est pas dans leur cœur de métier. Est-ce qu'il y a une volonté nationale d'aider ces petites communautés-là à émerger ou à se mutualiser des efforts entre elles ou d'un point de vue national, parce qu'en France, c'est très, très centralisé, d'avoir des entités, notamment comme l'ANSSI, qui vont déployer un SOC pour l'ensemble de collectivités ou des éléments comme ça qui sont prévus ou c'est encore embryonnaire comme réflexion?
Aujourd'hui, donc l'État indique que les mesures à mettre en œuvre ne seront pas portées par l'État. À chaque fois, le coût est à la charge des entreprises. Donc voilà. Sur les collectivités, etc., on ne sait pas encore comment ça va se dessiner. Parce que là, on travaille surtout dur à la transposition, puisque elle a pris quelques mois maintenant de retard. On n'est pas encore à l'année, mais. Voilà, on a pris beaucoup de retard sur la transposition en droit français, donc c'est surtout la première concentration. Après, en effet, On n'a pas de, aujourd'hui, on ne sait pas du tout comment ça va se dessiner sur ces éléments-là. Pour avoir rencontré un certain nombre de collectivités, je pense qu'ils en appellent en effet à se rassembler, ce qu'ils font déjà sur d'autres sujets. Donc, ils essayent de mutualiser, hein, même sur des secteurs plus privés, ils essayent via les syndicats, via pas mal de groupements, de rationaliser un petit peu les éléments. Parce que c'est vrai que dans un même secteur, les risques, on peut couvrir quand même les mêmes risques. Donc, avoir les mêmes éléments en place. Donc, c'est une volonté qu'on voit dans l'écosystème au global, en effet, sur des appels d'offres, sur ce genre de choses, de rationaliser un petit peu tout ce qui est coût sur les sujets de cybersécurité, ou au moins d'avoir des catalogues de services à disposition pour pouvoir répondre. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de... On n'a pas de... C'est pas impulsé nécessairement par l'État ou par l'ANSSI, même si encore une fois, ils essaieront de mettre tout à disposition de façon à pouvoir répondre au mieux. Notamment les canaux de communication. Aujourd'hui, on ne sait pas comment il va falloir communiquer auprès de l'ANSSI, etc.
Ouais, ben c'est ça, parce qu'il y a beaucoup, faut éviter les répétitions, parce que, puis comme en TI aussi d'ailleurs, tout le monde invente des choses de leur côté, c'est contre-productif, surtout quand on a des petites communautés qui n'ont pas beaucoup d'argent, donc de ce rassemblement-là au moins, ou un partage d'un point de vue communautaire ou national, dans le cas de la France, qui est un peu plus fort sur cet aspect-là, d'amener, puis justement, de monter en expertise, puis donc d'arriver à l'objectif de NIS 2, donc de cette montée de compétences, mais d'un point de vue national pour être plus résilient face aux attaques. Pour ma compréhension, parce que je connais mal le système d'adoption des lois françaises et notamment la transposition nécessité du volet européen vers la France, comment ça fonctionne exactement et pourquoi ça prend un peu plus de temps que ça serait souhaitable?
Alors, donc la directive européenne a été transposée. Alors, la directive européenne a vu le jour. La proposition était en juillet 2020, donc au niveau de l'Europe. Elle est passée au journal officiel de l'Union européenne. Elle a été publiée le 27 décembre 2022 avec une obligation pour les États membres de transposer au 18 octobre 2024. Voilà. Beaucoup de pays n'ont pas encore transposé, on n'est pas les seuls et uniques derniers. Voilà. En France, au vu du contexte du gouvernement début d'année, etc., on avait plus de budget à voter que de transposition nationale, malheureusement. Ce qui fait que ça a pris un peu de retard. C'est passé courant mars au Sénat. Donc ça a été adopté par le Sénat courant mars. Et donc là, c'est normalement, alors je vous parle en cours au niveau de l'Assemblée nationale. Sachant que pour l'instant on n'a pas de mesures opérationnelles, c'est vraiment le texte de loi qui est pas forcément précis sur les applications. Ce qui se profile, c'est plutôt plusieurs décrets par la suite pour mettre en application vraiment des mesures opérationnelles.
Pour descendre sur le terrain, probablement ça va se faire dans les, j'ose espérer, dans les prochains mois, cette application-là, même si les gens s'y préparent déjà, les compagnies s'y préparent déjà, parce que c'est inévitable que cet élément-là va arriver, puis il n'y aura pas de surprise, comme tu mentionnais. On parle beaucoup, jusqu'à présent, des entités plus européennes ou françaises qui vont être affectées par ça. L'éléphant dans la pièce, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies américaines qui sont présentes en Europe, qui doivent aussi s'y conformer, comme ils doivent se conformer au RGPD. Ça donne quoi comme effet dans l'écosystème, cette tension-là qui est non seulement appliquée parce que les compagnies américaines ne sont pas habituées de vivre dans un contexte aussi réglementé, disons. Ça doit quand même amener des conversations intéressantes au niveau de ce que ça peut apporter comme amélioration.
Comme je le disais tout à l'heure, le NIS 2 et ses mesures, pour l'instant, on est sur quelque chose pour supprimer le bruit ambiant, ce qui fait que les mesures à mettre en œuvre pour des très grosses structures sont plutôt normalement déjà en place, déjà dans les mœurs. On est vraiment sur une très très grosse ressemblance avec une ISO 27001, donc des standards pas méconnus, des ressources à prendre en compte non méconnues non plus. Et aujourd'hui, encore une fois, la seule crainte est comment on fait on espère à l'usage des sortes de mapping entre ces différents référentiels, que ce soit du NIST ou de l'ISO, on espère avoir quand même des semblants de conformité équivalente pour pas avoir à faire de la conformité pour de la conformité et donc tout rédiger tout voilà. Donc ça sur le côté NIST, on est plutôt sur le côté NIST 2 pour le coup, les engagements de conformité répondent avec la SMSI en grande partie. C'est juste comme je disais les incidents qui sont à prendre en compte différemment, mais sinon on est quand même sur un bruit ambiant où on répond. Beaucoup plus d'entreprises s'orientent vers justement la mise en place d'un SMSI vraiment certifié pour au moins avoir des billes et prouver leur conformité et la prise en compte des enjeux cyber pour pouvoir le prouver à l'extérieur. Donc on a beaucoup d'entreprises qui s'orientent vers ces sujets-là de plus en plus, puisque ça devient clairement un enjeu business. Et c'est le souhait et la volonté, hein, encore une fois, c'est de faire rayonner et d'apporter une hygiène à tout le monde, entre guillemets. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, encore une fois, la crainte du millefeuille réglementaire et de la conformité pour la conformité qui fait un peu de... qui apporte quelques confrontations au niveau de grosses entités internationales. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment leur difficulté de millefeuille et de devoir encore cocher des cases ou réécrire des papiers pour répondre. Mais au même titre que j'ai pu trouver l'ISO intelligente, je pense que la NIS 2 couvre elle est proportionnelle. Donc l'objectif est pas d'avoir la même structure, c'est vraiment par rapport au risque. Du coup, je pense que si c'est présenté intelligemment, on fait pas de la conformité pour de la conformité, mais bien pour monter en maturité et pour faire de la gouvernance, pour vraiment appliquer de la gouvernance cybersécurité, pour vraiment prendre en compte les risques dans l'utilisation de son système d'information. Donc je pense que bien mené, on ne devrait pas arriver à du papier pour du papier.
Ouais, ben c'est l'objectif de la loi, c'est d'arriver justement à augmenter la maturité globale, donc parler une hygiène de base, d'arriver à ces éléments-là, parce que clairement, il n'y a personne qui est capable, même si ça fait longtemps qu'on en parle de l'hygiène de base ou les 10 éléments standards, tu vois, puis à ce jour, ça n'est pas appliqué ou c'est très peu appliqué, ou c'est vite oublié, ou ça on le fait plus. Donc, c'est d'amener cette façon, je trouve ça très intéressant. On a fait un bon tour de la loi, comment ça fonctionne, est-ce que des éléments qu'on n'a pas couvert, que tu aimerais aborder?
Bah, on peut balayer rapidement les mesures qui vont être qui sont dans le viseur à aujourd'hui et surtout les gros sujets. Comme je le disais, on est sur un chemin long et sinueux, mais pas anodin. On a des mesures comme l'inventaire des actifs. On retourne sur quand je disais hygiène de base, c'est des basico-basiques. Tu disais également que, en effet, tous n'appliquent pas une hygiène de base, mais c'est surtout qu'ils ne l'appliquent pas partout. Que souvent, on n'a pas identifié le petit trou dans la raquette. Donc, tout ce qui est revue et supervision sont des points importants. On va prendre en compte aussi la gestion des ressources humaines, par exemple. Donc, on est sur quelque chose de très transverse qui ne doit pas être porté que par la DSI. On est vraiment sur de la gouvernance. Un autre point un peu différenciant de la NIS 1 par rapport à la NIS 2, la NIS 1 imposée, du coup, réglementée des secteurs, elle est réglementée que sur des systèmes d'information dits critiques. Donc, une entreprise critique pouvait se voir réglementée juste sur son système d'information de distribution d'électricité, par exemple. Tandis que la NIS 2, c'est tout le système d'information, à part si on peut prouver d'une exclusion entre chaque système critique. Et là, pour le coup, ça change beaucoup le paradigme. Là, on faisait de la conformité vraiment juste sur un système d'information. On lui mettait un périmètre plus ou moins réel sur cette conformité. Là, c'est vraiment l'ensemble de l'entité qui sera régulée, à part s'il peut prouver que son système critique est vraiment isolé. Ce qui, aujourd'hui, est plutôt rare. Et encore une fois, l'objectif est toujours la résilience, donc la réaction aux incidents, la reprise d'activité, la continuité. On est vraiment sur des points importants du texte.
Ouais, c'est très intéressant. C'est une belle façon de conclure sur ce sujet-là. Merci énormément de ce partage-là. Moi, ça m'a énormément éclairé sur ce que c'est. Puis j'espère que ça va justement amener la bonne nouvelle au plus grand nombre, justement, pour qu'on avance tous ensemble vers ce type d'hygiène de base minimale qui, malheureusement, doit être importée par des textes réglementaires, mais qui, malgré tout, c'est l'humain étant ce qu'il est. Je pense que c'est le chemin à obtenir pour, collectivement, qu'on se retrouve face à une situation plus positive.
Pour tout le monde.
Oui, merci beaucoup.
Merci, Nicolas Loïc.